12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Dans Fursy, né libre, il nous raconte un épisode capital de l'histoire de l'esclavage en France. L'auteur et cinéaste Abdelmalik sera mon invité à partir de 13h. Mais nous sommes des êtres d'habitude. On commence alors, comme toujours, par le plateau critique avec aujourd'hui deux films. Eleonora 12 de Pietro Marcello en salle aujourd'hui et Un jeune homme de bonne famille de Sébastien Lipschitz sur Arte.tv et le 19 janvier à l'antenne à 22h35. Vous écoutez les Midis de Culture, c'est déjà ça. Voyez-vous. Et pour débattre aujourd'hui autour de la table, Thierry Chaise, journaliste, critique de cinéma, directeur de la rédaction du magazine Première et animateur de télé et de radio. Bonjour.
Bonjour.
Charles Bosson, critique de cinéma et vidéaste sur YouTube. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
Eleonora 12, l'ottava meraviglia del mondo nuovo, è qui per noi.
Viva Eleonora!
Sarebbe bello rivederla a teatro.
Non so neanche più se sono un'attrice.
Non hai bisogno di tornare in quel mondo di peccatori. Si vogliono approfittare di te.
Voglio ricominciare da dove ho lasciato.
Ma il futuro è del cinematografo, eh. Il teatro è morto.
Ma io sono viva!
L'unico modo che ho di rispondere alla guerra è il teatro.
La banca di Berlino è fallita, non ha più niente.
Guarda cosa sei disposta a fare. Potrei prendere il mio posto nel cuore di mia madre.
Mussolini, come sta?
I manganelli lasciamoli al guardaroba.
Eleonora 12, la divine. À l'écran, c'est Valeria Brunetteschi qui prête ses traits à cette icône du théâtre italien de la fin du 19e et du début du 20e. La France avait Sarah Bernhardt, les Italiens avaient la 12, véritable star mondiale, adulée par Stanislavski, par Tchekhov. Le film de l'Italien Pietro Marcello se concentre sur les dernières années de la comédienne, quand, ruinée, elle décide de remonter sur scène à près de 60 ans. Le film explore sa relation difficile avec sa fille, jouée par Noémie Merlant, et ses liens, vous l'avez peut-être entendu, avec Mussolini, dans une Italie crépusculaire. On commence avec quelques mots d'introduction d'abord, Charles Bosson.
Eh bien, j'ai l'impression un peu douloureuse de voir un cinéaste qui passe un peu à côté de son film, qui multiplie les impasses et qui pour moi, il se laisse complètement absorber par son actrice. Mmh. C'est à la fois la force du film et ce qui fait que petit à petit, le spectateur se sent complètement éjecté.
Thierry Chaise.
Et moi, j'ai plutôt accroché, parce que quand on aime les comédiennes pour à la fois leur flamboyance et leur contradiction totale, ce film l'exprime pleinement, quitte à s'y perdre, mais moi j'ai adoré me perdre avec lui.
Alors Charles Bosson, plusieurs impasses avez-vous dit.
Alors déjà l'impasse 12, c'est-à-dire que moi j'avais envie d'en savoir plus sur cette femme, sur son importance, c'est quand même le moment des divas, il y a aussi Sarah Bernhardt qui est interprétée par Noémie Lvovsky, deux femmes dont la presse faisait des rivales, parce qu'il fallait à l'époque monter l'image de ces nouvelles stars, qui sont vraiment devenues le modèle après des stars du cinéma, et Marcello a une idée qui est à la fois très séduisante sur le papier, mais qui tourne un peu court, c'est de laisser complètement Valeria Brunetteschi s'emparer du rôle et du personnage, même un peu comme une metteuse en scène. Mm-hmm. Et on va le voir dans une scène très, très intéressante du film qui arrive très tôt, où elle dirige Ibsen, et elle dirige une jeune comédienne, et là c'est vraiment du proto-Strasberg, c'est-à-dire qu'elle lui dit en gros, quelle est ton expérience, quel est ton traumatisme, et elle fait vraiment surgir le traumatisme, et là tout à coup je me suis dit, j'ai retrouvé des souvenirs physiques des Amandiers, qui est un film que j'adore, et je me suis
réalisé par Valeria Brunetteschi,
et je me suis dit c'est un film qu'elle aurait dû finalement réaliser, puisque lui est tellement collé à son image, tellement proche de son visage, que j'ai l'impression que le cinéaste finit par comme faire écran à son propre film. Et moi, en tant que spectateur, je me pose toujours la question de où est ma place dans cette espèce d'engrenage. Et alors évidemment, le visage de Brunetteschi a rarement été aussi sublimé, aussi magnifié. Elle arrive quand même, le film commence, il faut le dire, sur des petites maquettes qui montrent la guerre de 14. C'est un film quand même assez fauché et qui arrive à faire quelque chose d'assez ample et d'assez romanesque. On a de la fumée sur ce champ de bataille, on a des bruits, un espèce de fond informe. C'est la fin de la guerre, c'est assez triste. Et s'élève une petite cabine, comme une petite cabine de téléphérique, avec dedans la 12 et son assistante, extraordinaire actrice Fanny Wrocka, qui est hongroise, et les deux comme ça montent et elles viennent faire des discours pour l'armée. Mmh. Tout à coup, la Douzé sort de sa retraite puisqu'elle a arrêté de jouer. Elle va être ruinée. C'est pour ça qu'elle va aussi remonter sur les planches. Et tout à coup, elle est face à la réalité, c'est-à-dire les amputations, le sang, la souffrance, et vole au-dessus d'elle le personnage presque mythologique de Gabriele D'Annunzio, le poète combattant, qui est aussi un des grands inspirateurs du fascisme, et qui lui jette depuis le ciel une sorte de lettre d'amour. Mmh. Et là, je me suis dit, déjà le film rate quelque chose, c'est qu'on aurait presque pu le montrer dans son avion comme un centaure, c'est-à-dire que le film est complètement fantastique et que cette dimension-là, cette rencontre entre les deux, est, me semble-t-il, ce qui est le moins exploité, et pourtant on y revient tout le temps dans le film, la confrontation de ces deux personnages qui tous les deux défendent une vision de l'art, elle qui serait plus forte que la guerre et lui un art guerrier. Et tous les deux vont se faire avoir par Mussolini.
Thierry Chaise. Mais je partage beaucoup de choses de ce que dit Charles, vraiment, mais sur le côté positif. Mmh. Mais je pourrais reprendre quasiment tous ces mots. Moi, il me manque quelque chose, c'est une culture italienne, y compris de l'époque. Ça, c'est vrai. Si j'étais spectateur italien, je pense que je verrais le film différemment. Mais ce que j'aime, c'est que lorsqu'on parle de biopic, beaucoup ont quand même le défaut de partir du début pour aller jusqu'à la fin. Là, il y a au moins une volonté de raconter un moment, une période. Et pour moi, cette période, c'est la lumière d'une étoile morte. C'est-à-dire que tout est déjà fini. Elle ne le sait pas. Et ceux qui ont compris que c'était fini, Mussolini, tout ça, vont essayer de se servir de l'éclat qui reste pour s'éclairer eux. Mais, en effet, finiront par la jeter. Moi, c'est ce parti pris-là. Après, Pietro Marcello, ce qu'il avait fait avec Martin Eden de London restera quelque chose d'indépassable. Et depuis, dans les films que j'ai pu voir de lui, ça n'est pas jusque-là. Mais sur ce film-là, voilà, moi j'ai aimé qu'il la prenne comme ça, qu'il prenne Valéria et que, puisque c'est la Douzé, eh bien, je vais laisser aussi Valéria s'emparer de mon film. Je comprends complètement que ça puisse gêner, c'est en effet totalement les Amandiers. Et lorsqu'on a aimé Valéria Brutedeschi, très en dedans, dans L'Attachement par exemple, on retrouve là la Valéria qu'on connaît par ailleurs, puissance 1000, comme si il fallait se libérer, mais elle disait elle-même que sur L'Attachement, elle a lutté contre sa réalisatrice en lui disant, mais pourquoi tu me fais faire ça? Là, on sent que elle reprend. Et moi, je dois avouer que je suis fasciné par ce qu'elle fait. Parce que parfois ça m'agace, parce que parfois ça me hérisse, mais je me dis, c'est complètement vivant. Et c'est vivant, et justement, c'est vivant par rapport à ce paradoxe de la mort qui va peu à peu, à la fois dans le sens premier et second du terme, l'envahir. Et cette contradiction et presque cette souffrance comme spectateur, moi, m'a pris, m'a enchanté.
Charles Bosson.
Alors pour répondre à ça, je suis tout à fait d'accord aussi, mais je pense que l'éclat dont vous parlez, moi, je ne le comprends pas. C'est-à-dire que c'est ça qui me rend un peu triste devant ce film, c'est que cette Douzé, moi, je ne comprends pas ce qu'elle avait d'exceptionnel, je ne comprends pas quel était ni son style, ni ce qu'elle a pu apporter à ce théâtre d'Ibsen. Par exemple, le film de Guillaume Niclou sur Sarah Bernhardt, La Divine, avec Sandrine Kiberlin, avait le mérite d'être beaucoup plus clair dans son projet et de développer des personnages secondaires autour d'elle qui étaient très intéressants et qui nourrissaient le récit. Pour moi, il y a un personnage qui est vraiment très dommage dans ce récit-là, c'est celui de Désiré von Wertenstein, qui est donc son assistante, je parlais d'elle, jouée par Fanny Brockna, dont on ne sait absolument rien, c'est-à-dire que le cinéaste n'utilise en fait que sa ciné-génie, un peu ce que fait Pablo Larraine jusqu'à la nausée dans ses derniers films, c'est-à-dire qu'il ne se nourrit que de son visage, et elle aurait pu être un intermédiaire, finalement une figure d'assistante, c'est toujours passionnant les récits sur les assistants, sur les annexes, ceux qui sont derrière les stars, elle aurait pu nous apprendre beaucoup de choses sur cette Douzé, et elle reste toujours juste une figure et je trouve que le film s'éteint progressivement, que tout ce qui est brillant dans la première partie finit par devenir un peu usant et cette proximité, moi, des visages, au bout d'un moment, a fini par me lasser. J'ai trouvé un geste très maniériste, très artificiel, qui est à la fois celui de l'actrice. Moi, j'avais besoin à la fin de m'éloigner même des gens autour de moi, c'est-à-dire j'avais besoin de rétablir les distances de sécurité. Je ne supportais plus ces visages collés et ce maniérisme qui a toujours été à l'œuvre chez Pietro Marcello depuis Martin Eden, qui est vraiment son chef-d'œuvre. Je dirais aussi La Bocca del Lupo dans le versant documentaire, qui est absolument splendide. Il est un peu l'alter ego masculin de Alice Rohrwacker, mais qui pour moi arrive beaucoup plus à soigner son maniérisme, c'est-à-dire à y faire pénétrer des choses contemporaines. Et là où pour moi il se plante magistralement, c'est avec l'archive. Et on a beaucoup parlé de son talent pour coloriser les archives, etc. Il y a quand même...
Il y a
beaucoup d'archives, oui. Et notamment les archives du soldat inconnu qui traverse l'Italie et qui est ramené, mais qui met 1h30 à arriver. Et à chaque fois qu'on voit les archives, on entend une espèce de musique d'ascenseur. Donc, on change de registre, on passe dans l'archive. Et contrairement à Martin Eden, qui faisait vraiment surgir la réalité de l'Italie, on avait l'impression que le récit de Jack London se déversait dans les archives. Là, pour moi, ça ne produit rien à part une petite quelque chose d'un peu très maniériste, c'est-à-dire voilà, c'est joli. Ce sont deux régimes d'images qui finalement ne se rencontrent pas tellement et qui cachent un peu, qui font un peu cache-misère parce qu'on n'a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens de Visconti. On peut pas faire la guerre. On peut pas montrer les guerriers. Et elles viennent toujours un peu à la rescousse, mais finalement. Elle ne montre pas grand-chose.
Je suis entièrement d'accord.
Sur le lien avec Mussolini, qu'est-ce que le film raconte ? Ça, c'est pour les Français, c'est vraiment une partie de l'histoire qui est très, très inconnue.
Ce que le film raconte, c'est qu'évidemment, le régime veut récupérer cette star absolue, c'est-à-dire comme on peut imaginer que n'importe quel dictateur au monde voudrait rajouter, et qu'elle, donc, étant tout en son obsession d'un retour... Qui nous paraît à nous improbable et elle lui paraît possible, elle va prendre toutes les mains sans, en tous les cas, ce que dit le film, sans se rendre vraiment compte où elle va, même si on essaie de l'avertir. C'est-à-dire qu'il y a un aveuglement, parce que, en effet, comme Charles a dit tout à l'heure, l'art est plus fort que tout, et donc l'art est forcément plus fort que le mussolinisme, peu importe qui en fait j'ai en face, puisque moi, par mon art, je finirai par broyer tout ça, et peu importe qui me permet de le faire, je l'emporterai avec moi. Et c'est cet aveuglement-là qui est aussi filmé. Et là où je suis d'accord, justement, c'est que on n'a pas besoin là d'archives. Ce film-là, tel qu'il est fait là, tout est raconté dans la fiction, bien ou mal, peu importe. Et que d'un coup, de voir arriver une archive, je dis, ah tiens, c'est un autre film d'un seul coup qui arrive.
C'est vrai que Pietro Marcello, c'est aussi un grand documentariste.
Il a commencé comme archiviste. Et c'est ça. Il est amoureux des archives, il le dit dans tous les entretiens. Et à la fin du film, on est à Venise et on voit la Dose avec sa fille jouée par Noémie Merlant, qui sont dans des roses. Et tout à coup, l'image cinéma a les mêmes couleurs que l'archive. Et là, je me dis, ça, c'est le piège du maniériste. C'est-à-dire que tout à coup, il transforme son présent de cinéma en quelque chose d'un peu poussiéreux et d'un peu joli. Et une déception de plus dans ce récit, avec ce Mussolini. Ouais. Et il faut dire qu'il y a une série qu'on attend toujours, il faut qu'elle sorte en France, qui s'appelle M, Son of a Century, de Joe Wright, qui montre vraiment ce que c'était que Mussolini, qui voulait rendre l'Italie great again, et dont on a plus que jamais besoin aujourd'hui voir quelque chose. Et là, ce Mussolini, il est exité, il est en dehors de la fiction, et c'est très dommage.
Un petit mot, c'est qu'il n'existe aucune archive sonore de la Douzée. Et donc, à partir de là, l'interpréter était forcément compliqué, d'où peut-être des impasses faites. Voilà, c'est tout. C'était mon dernier mot.
Eleonora Douzée de Pietro Marcello qui sort en salle aujourd'hui. Et Thierry Chesse, vous gardez la parole puisque c'est l'heure de votre coup de cœur pour le film Jusqu'à l'aube.
Oui, de Sho Miyake qui en 2023 avait signé La beauté du geste sur une boxeuse qui était l'as des rings. Ici, c'est une histoire de deux personnages en souffrance, mais en grande souffrance. Il y a Misa qui est victime d'un syndrome prémenstruel très intense qui vraiment, et dès la première scène on le voit, provoque à un moment une impossibilité de vivre, tout simplement. Et puis, il y a Takatoshi qui, lui, a des crises de panique régulières qui surgissent et qui, pareil, le font rentrer dans son monde et l'empêchent de communiquer. Eux deux sont situés pourtant dans un environnement totalement cocon. C'est une petite entreprise familiale qui fabrique des produits, des télescopes. On se croirait presque dans l'univers à la Wes Anderson, donc tout va bien. Et ce que je trouve formidable avec ce film, c'est la manière de traiter la douleur. On est dans un film qui est extrêmement pudique, qui fonctionne par petites touches, qui ne va pas à la facilité de la love story entre deux souffrances, mais qui montre comment finalement la douleur de l'une peut guérir la douleur de l'autre. Et inversement, il y a vraiment la délicatesse de la mise en scène, la délicatesse de l'interprétation, c'est la vie telle qu'elle peut être, avec juste plus de poésie, avec juste un peu plus de lumière dans ce noir qui paraît. Mais j'ai été vraiment, moi, frappé par cette délicatesse et comment en 2 heures, on est avec ces personnages, on les suit, on ne les abandonne pas, sans que jamais le cinéaste nous tordre le bras en disant « il faut être ému là, il faut souffrir là ». La représentation de la douleur mentale et physique a rarement été aussi bien traitée depuis des années au cinéma.
Jusqu'à l'aube de Sho Miyake, qui vient de sortir aujourd'hui également.
Aussi loin que je puisse remonter dans ma mémoire, Je me suis senti libre tout le temps. Dès que je quitte mon service militaire, je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir le monde, découvrir la vie et surtout vivre ma sexualité. Je cherche l'amour et en même temps, je savais que c'était un désir interdit.
Nous, les amoureux, on voudrait nous séparer.
Ce monde homosexuel est assez fascinant. On s'amuse. Paris était devenu une ville très libre. C'était merveilleux. La provocation, elle était partout. C'était un spectacle et on est les acteurs de ce spectacle. Je sortais un peu du lot parce que j'avais un certain profil de jeune garçon, de bonne famille. C'était pas malhonnête, donc j'avais pas honte à le faire.
On enchaîne avec le nouveau film de Sébastien Lifshitz, Un jeune homme de bonne famille, disponible sur la plateforme Arte et à l'antenne le 19 janvier à 22h35. Alors, ce jeune homme, c'est Claude Loire et aujourd'hui, le jeune homme, il a 80 ans. Un anonyme qui a grandi dans les Pyrénées ariégeoises et qui y vit encore. Mais entre-temps, Claude Loire, jeune homosexuel, est monté à Paris vivre sa sexualité sans entrave. Nous sommes dans les années Giscard, la censure sur le cinéma porno est levée. Claude devient alors une star du X, homo comme hétéro. Et comme avec son documentaire Les Invisibles, Sébastien Lifshitz donne des images et des visages à ces années d'avant l'épidémie de sida pour construire une mémoire queer. On commence avec quelques mots, Thierry Chess.
Et moi j'adore, comme toujours chez Lifshitz, son talent de confesseur, quel que soit l'âge des gens qu'il rencontre, d'adolescentes aujourd'hui, et puis sa capacité de raconter une petite histoire. Petite, mais pas au mauvais sens du terme, dans la grande histoire française de cette époque.
Charles Bosson.
Moi, je dirais que c'est un chef-d'œuvre comme seul Sébastien Lifshitz sait les faire, avec toute cette humilité, cette modestie, et dans cette semaine de cinéma un peu morne, c'est ce que je vois de plus fort.
Alors Thierry Chaise, qu'est-ce qui fait la spécificité de Lifshitz quand il s'empare de sujets comme celui-là?
C'est en effet d'abord une passion, je pense, pour son sujet, une grande connaissance des choses et une passion de l'être humain ou des êtres humains qu'il a en face de lui. Et j'ai l'impression, moi, qu'il n'arrive pas avec un film prédéfini. Là, pourtant, on peut se dire, si on dit, oh là là, ça peut être, c'est quand même cet homme, Claude Loire a eu mille vies, c'est-à-dire de son enfance compliquée, son rapport avec sa mère, l'arrivée à Paris, le fait qu'il devienne un acteur porno et dans le cinéma hétéro, comme il le dit lui-même, sa vie dans ce Paris où tout semblait libre. Sans oublier quand même qu'à l'époque, l'homosexualité pouvait vous conduire en prison, donc voilà. Et en fait, ce que Lifshitz fait, c'est que j'ai l'impression qu'il est comme nous, spectateurs, c'est qu'il dit, allez, raconte-moi, mais je vais, moi, t'aider à raconter. Non pas en te poussant, mais en t'accompagnant. Et moi, c'est un cinéaste pour moi de l'accompagnement des choses. Et qu'à partir de ce que Claude Loire va lui dire, lui va arriver à la fois à être totalement avec lui et prendre du recul pour nous dire oui, regardez ce qu'il vous dit, mais regardez aussi ce qui se passait à l'époque. Et ça, sans 10 tonnes de voix off qui viendraient comme des pièces de puzzle manquantes tout rajouter, il y a une qualité. Mais moi, c'est d'abord une qualité d'écoute qui explique pour moi le fait qu'il soit vraiment très à part dans le cinéma documentaire français.
Charles Bosson.
Alors moi je dirais que c'est pour moi un vrai aventurier des marges, qui a vraiment pris tout le monde d'avance en fait aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait énormément dans tous les médias et c'est tout à fait normal. Mais lui était un peu pionnier de ça, c'est quelqu'un qui est toujours allé voir les images ou les personnages qu'on ne montre pas dans la fiction, dans le cinéma, il en parle extrêmement bien. Je vous conseille vraiment de regarder, d'écouter ces différentes interviews. Et comme disait Godard dans une formule célèbre, la marge, c'est ce qui fait tenir la page. Et en fait, quand on voit un film de Lifshitz, c'est toujours ce qu'on se dit. C'est-à-dire que d'abord, on rougit du peu d'imagination que nous a transmis le cinéma. Pour moi, c'est un démineur aussi. C'est quelqu'un qui est très aventureux, Lifshitz, parce que justement, on parlait de ces histoires du porno. Voilà quelqu'un qui est homosexuel, qui découvre sa sexualité et qui va devenir à un moment une star du porno hétéro. Dans un film de fiction, on trouve ça terrible. On dirait qu'il le subit. Et lui, plus léger que l'air, s'amuse et se dit, est-ce que je ne serais pas un hétéro frustré? On est toujours surpris, on rougit, on s'amuse, il y a un ton comme ça libertaire, on revient dans ces années absolument merveilleuses d'avant le sida qui a été vraiment cette espèce de parenthèse un peu enchantée. On pense à tous ces grands cinéastes qui d'ailleurs sont montrés dans le film. Ouais. Et là, je vais en parler, pour moi c'est très fort comment il arrive à faire ressurgir des images de Lionel Soukaz ou de Guy Gilles. Tout à coup, il fait revenir une sorte de mémoire. Voilà. Autour de ce personnage. Et là, il est alors confesseur, mais sans la dimension un peu passive que cela implique, puisque le livre de Claude Loire, Confession païenne, il le trahit quand même pas mal. C'est-à-dire que Confession païenne, c'est une collection de rencontres, c'est très sentimental, c'est très répétitif. Lui, ce qu'il fait là-dedans, c'est qu'il nous montre aussi tous les impensés, c'est-à-dire qu'il nous montre la marge de la marge. C'est là où il est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on lui donne un récit de marginal, et lui va encore chercher ce qui est caché ou ce qui est impensé là-dedans. Et ce qu'il nous montre, c'est tout le cheminement d'un jeune homme homosexuel dans ces années-là qui découvre un monde, et là survient la modernité du film, c'est qu'il faut illustrer tout ça. Et comment est-ce qu'on illustre tout ça? Eh ben, il va chercher Alina dans les archives, et en fait ces images n'existent pas. Les saunas gays, cette pissotière où il va vivre sa première expérience sexuelle, il va jouir pour la première fois, c'est une sorte de révélation. Où est-ce qu'on la trouve? Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il va aller le chercher dans la filmographie de Claude Loire, dont il retrouve une quarantaine de films, et à l'époque ce sont des films porno qui souvent sont réalisés par des femmes, ce qui est quand même toujours assez surprenant.
Ben oui, la réalisatrice d'Un couteau dans le cœur.
Absolument. Exactement. Absolument. Et ces femmes, justement, qui filment, pas uniquement, et ce sont des films qui sont faits à 75% d'images, quand même, de descriptions des lieux, des endroits, et 25% de scènes de sexe. Et dans ces 75%, il va trouver sa mémoire. Et ça, je trouve que c'est un geste absolument sublime. C'est de se dire que dans ces films qui sont considérés comme rien, comme mineurs, comme oubliés, lui va trouver la mémoire d'un monde perdu, d'un monde englouti. Donc, un, vive la pornographie, et deux, aux pornographes d'aujourd'hui, rajoutez des scènes de fiction, puisque ces scènes deviendront peut-être dans 30 ans ou 40 ans la mémoire des lieux qu'on ne montre pas aujourd'hui.
Thierry Chaise.
Mais il y a aussi cette parole de Claude Loire, c'est quand même, on l'a entendu là, il y a quelque chose, en effet, du jeune homme de bonne famille, mais on a l'impression que tout a glissé sur lui. On a envie vraiment de s'arrêter et de dire, mais attends, t'as entendu ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire qu'on peut jouir sans entrave. Oui, on ne peut pas jouer sans entrave, mais tu peux être arrêté au moment où tu le fais. Ce qui s'est passé avec Sam, enfin, il y a quand même, il vit des tragédies intimes très fortes, et il y a une forme de résilience, y compris dans son ton, qui fait que tout ça prend aussi une autre dimension. C'est-à-dire qu'il y a en effet, et on parlait tout à l'heure du travail d'archives de Pietro Marcello, là on est dans la réussite totale. C'est-à-dire que c'est une leçon.
Un an de travail pour collecter ces archives.
C'est une leçon.
Et puis il collecte des archives depuis très longtemps.
Très longtemps. Avec des réseaux de collectionneurs de ce réseau queer.
Et en fait, tout en explorant la marge, il ne bégait jamais. C'est-à-dire que Les Invisibles ne ressemblent pas à ce film-là. Bambi ne ressemble. Il trouve à chaque fois, en fait, quelque chose en adéquation. Et là, moi, c'est vraiment ce Claude Loire. Par moments, on se dit, mais c'est dans une fiction, là encore, on dirait, mais non, mais le personnage ne peut pas dire ça, il ne se confierait pas comme ça à un ami. Et il y a cette espèce à la fois d'autoroute et toujours Lifshitz qui remet tout en perspective, qui le bouscule aussi par moments. Ça, on voit bien quand même qu'il est bousculé. Et comme spectateur, on est extrêmement actif dans les films de Lifshitz. Et ça, c'est formidable.
On l'a entendu dans la bande-annonce, et le travail aussi sur la bande-son de Lifshitz. C'est là qu'il amène énormément, voilà, d'ampleur à ses films.
Absolument. Et il y a cette musique assez sentimentale qui, justement, accompagne les moments magnifiques filmés par Paul Guillaume, qui est son chef opérateur attitré, disons, depuis 5 films, qui est aussi le chef-op d'Emilia Pérez, de Jacques Audiard, donc grand chef opérateur. Et quand Claude Loire est filmé dans la nature, qui était vraiment son jardin d'enfant, où on le laissait faire tout ce qu'il voulait, et qui, à la fin de sa vie, puisqu'il considère qu'il est à la fin de sa vie, que c'est terminé, devient aussi un peu une prison. C'est assez ironique. C'est-à-dire que finalement, il a fait tout ce grand voyage. Et là aussi, le réel est plus surprenant que la fiction. C'est que ce grand voyage l'a un peu ramené à un point de départ. C'est quelqu'un qui a jamais vraiment réglé. Mais pour vous répondre, cette musique, elle donne une dimension un peu Douglas Sirk. Oui. C'est-à-dire qu'elle donne un aspect épais, mélodramatique.
C'est comme dans Casa Susana. Voilà.
Absolument. Voilà. Absolument. Et donc, il accompagne ce personnage qui a aussi l'émotionnalité d'un enfant par moment. Dès qu'on commence à être ému, il est déjà en larmes. C'est quelqu'un qui nous surprend tout le temps, qui est très émotif et qui, quelque part, court-circuite toujours un petit peu notre rapport et finalement nous met à distance. Et quand le pathos pourrait surgir avec cette musique très sentimentale, il arrive toujours à la court-circuiter, à la tenir. Pour moi, c'est vraiment du grand art.
Oui, et puis on a le sentiment que Claude Loire se raconte pour la première fois. C'est ça qui est fort. Alors que, évidemment, qu'il s'est déjà raconté et qu'il a 80 ans. Et lui-même se redécouvre à travers le regard de Lifshitz et son écoute.
Charles Bosson, pour revenir, vous vouliez revenir sur les références aux cinéastes gays,
du
cinéma gay, queer de l'époque.
Absolument, puisque une fois de plus, pour illustrer le récit, donc cette voix qui raconte, il faut aller chercher dans les films, et notamment plusieurs films de Lionel Soukaz, mm-hmm. dont un film qui s'appelle Le sexe des anges. Lionel Soukaz a aussi réalisé X, il a aussi réalisé Razdep. C'est des films qui sont difficiles à trouver, oui. qu'on peut voir des fois sur YouTube, ou qui parfois sont réalisés, ressortent dans des coffrets.
Dans des festivals, de temps en temps.
Et là, tout à coup, et il y a quelque chose d'assez génial que fait Lifshitz, c'est qu'il joue avec la ressemblance. C'est-à-dire qu'on voit des archives, et en tant que spectateur, on se dit, mais est-ce qu'on est en train de voir Claude Loire ou est-ce qu'on voit quelqu'un qui lui ressemble? Et ce qui est génial à ce moment-là, et vraiment je le dis en le pensant, c'est que tout à coup on s'est dit, en fait, c'est l'histoire aussi d'un autre homme et de centaines d'autres hommes et peut-être de milliers d'autres hommes. Et ces archives deviennent tout à coup, et il fait exactement l'inverse de ce que fait Pietro Marcello. C'est-à-dire que cette archive, il la fait remonter à la surface et il lui donne une sorte de présence qui, une fois de plus, est grisante. Il y a quelque chose de grisant à voir ces images tout à coup illustrer un récit de vie d'aujourd'hui, tout en ramenant à la surface une mémoire engloutie, une mémoire du passé. Donc voilà, c'est un historien, c'est un chercheur, c'est un poète, et c'est un homme très discret, puisque je crois que j'ai jamais entendu une interview de Sébastien Lifshitz où il ne parle pas de son complexe par rapport au cinéma, d'être quelqu'un qui s'est toujours dit c'est pas pour moi, c'est trop riche, c'est trop compliqué. Et je pense que dans cette place-là, il a trouvé son poste d'observation de réalité. Et il le fera pour tous ses sujets. Il se met toujours à cette place-là. Et je trouve que ça fait un bien fou aujourd'hui où les cinéastes rivalisent de gestes monumentaux.
Et on est à l'inverse de l'efficacité.
Absolument.
Complètement. Et du coup, on a vraiment très envie de le retrouver dans la fiction. Parce qu'il a fait quelques fictions, dont presque rien, et qu'il a abandonné parce que justement, il ne se sentait pas à sa place, parce qu'il souffrait, parce que sans doute, tel qu'on le voit là, l'idée d'être un chef d'équipe marche pas. Mais là, avec ce qu'il est capable de faire là, on se dit peut-être qu'au bout de tant d'années à faire que du documentaire, il est temps de revenir vers la fiction. Moi, je suis vraiment épaté, et une fois encore, épaté par la leçon d'histoire qu'il donne sans être sentencieux. Mmh. Et comme Charles le dit très bien, c'est une manière de nous... De prendre le spectateur par la main et que le spectateur fasse son film, joue avec, en effet, est-ce que c'est lui ou pas. Et ça n'est pas l'ère du c'était mieux avant. C'était un moment de liberté Exactement. Pour lui, mais autour, il ne voyait pas la prison parce qu'il vivait sa liberté. Mais les dangers étaient énormes. Mmh. Et ça, le film l'indique clairement.
Charles Bosson ?
Non, et redire peut-être quand même aux gens qui nous écoutent que c'est un film clair, court, modeste, léger, voilà, ça a pas l'apparence d'un chef-d'œuvre, mais le film nous gagne, et justement cette parole libre, cette parole d'un homme libre, ce journal intime fait un bien fou aujourd'hui.
Un jeune homme de bonne famille de Sébastien Lifshitz, c'est sur arte.tv et à l'antenne d'Arte le 19 janvier à 22h35, Thierry Chaise. Charles Bosson, merci beaucoup d'être venu nous parler de ces films aujourd'hui dans les Midis de Culture. Vous qui nous écoutez, restez avec nous, on revient tout de suite.